9h30 à Paris, 8h30 en temps universel et en Guinée. RFI vous informe. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. C'est la une de ce journal. Cette polémique sur le nombre de victimes du drame de Nzérékoré dimanche en Guinée. 56 morts selon un bilan provisoire du gouvernement. Bien loin du compte de certaines ONG qui parlent quant à elles de 135 décès. Les armes qui s'expriment toujours dans l'est de la RDC. Deuxième jour d'affrontement hier entre l'armée et les rebelles du M23 au niveau du Lubero au nord Kivu. Une affaire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux du Burundi. Une lettre du ministère de l'Éducation qui a fuité. Elle révèle la défection d'un haut fonctionnaire lors d'une mission officielle en Belgique. Et puis un versement du FMI approuvé pour le Ghana. 360 millions de dollars à quelques jours des élections prévues dans le pays. Le gouvernement en fait un argument de campagne, vous l'entendrez. Deuxième jour de deuil national en Guinée après le drame de Nzérékoré dimanche. La capitale de la région forestière, théâtre d'une bousculade meurtrière au stade du 3 avril pendant la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au général Doumbouya. Rencontre terminée par des affrontements avec les forces de l'ordre et un gros mouvement de panique parmi les milliers de supporters présents. Le gouvernement évoque un bilan provisoire de 56 morts, mais des ONG locales, elles, on recense plus du double, Sidi Yansané.
Pour le collectif régional des ONG de défense des droits humains, le mouvement pro-Doumbouya local ainsi que la junte du CNRD qui l'a appuyé sont les principaux responsables du drame de Nzérékoré. Les ONG insistent sur le nombre de morts qui, selon elles, s'élève à 135, très loin donc du bilan du gouvernement. Un décompte basé sur les témoignages des supporters et des familles, entre autres. Emmanuel Fassou Sagno préside le collectif.
Les informations que nous avons recueillies auprès de l'hôpital régional de Nzérékoré. Auprès des 22 chefs de quartier, s'agissant des cas d'enterrement qui se sont passés la journée du 2 décembre, nous avons estimé aujourd'hui qu'il y a 135 personnes, majoritairement des enfants de moins de 18 ans, qui ont trouvé la mort ce 1er décembre 2020.
L'enquête des ONG indique aussi que 50 personnes au moins sont portées disparues. L'hôpital étant complètement saturé le jour du drame, des dépouilles ont été transportées au camp militaire de la ville, mais aucune nouvelle depuis. Emmanuel Fassou Sagno.
Nous avons approché certaines autorités militaires. On a eu peu d'informations, mais ils n'ont pas reconnu dans la plupart des cas leur responsabilité quant à l'usage des gaz lacrymogènes. Donc aujourd'hui, il est difficile de tirer un mot auprès des autorités administratives.
Le collectif demande l'interpellation des organisateurs du tournoi et encourage les familles à porter plainte.
Sidi Yansané, j'ajoute que nous avons tenté de joindre plusieurs membres du gouvernement guinéen depuis lundi, dont le Premier ministre lui-même, pour recueillir des réactions, mais sans succès. Ce drame à Nzérékoré qui sera en tout cas le sujet d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez après ce journal. La Guinée, où le journaliste Habib Marouane Camara a été arrêté hier soir par des agents en uniforme et conduit vers une destination inconnue. Responsable du site d'information Le Révélateur 224.com, très actif également sur le réseau social Facebook, son épouse dit ne pas savoir ce qu'on reproche à son mari. Au Mali, l'acteur de la société civile Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, enlevé hier soir chez lui. Selon ses proches, des hommes armés l'ont emmené vers une destination inconnue. Des éléments des forces de l'ordre se trouvaient devant son domicile hier soir. Pour l'instant, les raisons de son enlèvement restent inconnues.
RFI à Goma, 98 FM.
Les combats qui reprennent dans l'est de la RDC. L'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux, toujours face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Affrontement violent au niveau du Lubero. Nous sommes à quelques 150 km au nord de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Un conflit qui dure donc malgré les interventions diplomatiques, le processus de Luanda principalement. Les présidents congolais et rwandais sont justement attendus dans 10 jours en Angola. Mais en attendant, les deux parties se renvoient la responsabilité. On fait le point avec Eriti Baraka.
Deuxième journée consécutive des combats entre les deux belligérants. Ces accrochages sont signalés dans les villages d'Outué, Mantebe et Kassé, sur la RND, qui mène vers Lubero Centre, chef-lieu du territoire, et la ville de Butembo. Selon des sources sécuritaires et la société civile, ces violents combats à l'armée lourde ont provoqué la panique dans la zone et ont occasionné un nouveau déplacement massif des populations. Celles-ci ont fui à pied et sac au dos vers l'agglomération de Kitsumbiro à une vingtaine de kilomètres des lignes de front. Ces populations qui ont quitté les villages d'Alimbongo, Mantebe, Utwe, Kisorobia, Mambasa, Kasingiri sont accueillies dans des maisons d'accueil. D'autres passent la nuit dehors, selon Auguste Kombi Kasonia, président de la société civile de l'agglomération de Kitsumbiro. Le porte-parole de l'armée congolaise dans la région affirme que les FARDC ont réussi à stopper l'avancée des rebelles et leur ont infligé de lourdes pertes. Des sources proches du M23 affirment que cette façon pour les rebelles de montrer qu'ils sont toujours actifs et de faire entendre leur voix auprès des autorités angolaises, médiatrices au sein du processus de Luanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et avant d'accueillir cette rencontre entre les présidents congolais et rwandais dans 10 jours, en attendant, c'est Joe Biden qui est reçu à Luanda avec une annonce hier. Washington promet plus $1 milliard répartis entre 31 pays du continent pour aider les Africains déplacés par les sécheresses historiques. Journée marquée par une rencontre avec le président angolais, João Lourenço, également, et une visite au Musée national de l'esclavage. Aujourd'hui, Joe Biden doit normalement se rendre à Lobito, 500 km au sud de la capitale, pour rencontrer les dirigeants des pays concernés par le couloir de Lobito, ce vaste projet ferroviaire dans lequel investit Washington, un couloir censé relier l'Angola à la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Félix Tshisekedi fera donc le voyage aujourd'hui, le président congolais qui en profitera normalement pour rencontrer la médiation angolaise dans le même temps. Il a fixé hier le cap de la présidence sud-africaine du G20. Pretoria a pris le relais du Brésil lundi et le président Cyril Ramaphosa a défini ses priorités. Elles seront africaines, c'est sûr. Il veut notamment faire entendre la voix du continent qui a été négligée. Il plaide également pour l'inclusion d'autres pays africains au sein du club des grandes puissances. Le Nigeria, par exemple. Son président, Bola Tinubu, était justement en déplacement au Cap. La Namibie, qui élit la première femme présidente de son histoire à 72 ans, Netumbo Nandi Ndwaitwa, a remporté la présidentielle avec 57,31% des suffrages dès le premier tour, selon la commission électorale namibienne qui a annoncé les résultats hier. Netumbo Nandi Ndwaitwa, qui est la candidate de la SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance, mais l'opposition entend contester ces résultats. Parti en mission officielle en Belgique, mais jamais rentré au pays. L'histoire d'un haut fonctionnaire burundais qui agite en ce moment les réseaux sociaux. L'affaire a été révélée lundi par une lettre du ministre de l'Éducation burundais. Il nommait le remplaçant du fonctionnaire en question, mais la lettre a fuité, Esdras Dikoumana.
Au ministère burundais de l'Éducation nationale, personne n'aurait jamais imaginé qu'une personnalité de ce rang puisse profiter de sa mission officielle en Europe pour se faire la belle. Mais le directeur général de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et des métiers n'a pas hésité une seconde selon un de ses collègues qui parle d'un coup de préparé à l'avance. Ce n'est pas le premier ni le dernier à commenter sur un ton désabusé un diplomate burundais qui rappelle que cela arrive aujourd'hui presque systématiquement à chaque fois qu'il y a une délégation gouvernementale qui part en mission dans les pays occidentaux. On a même vu des membres de délégations présidentielles profiter des visites d'Evariste Ndayishimiye aux États-Unis et en Europe pour filer en 12 pointes la même source. Tous disent fuir un régime qu'ils qualifient de répressif et surtout la crise socio-économique qui frappe le Burundi, la pire de son histoire, pour justifier leur demande d'asile. Et ce ne sont pas les seuls fonctionnaires qui cherchent à s'expatrier à tout prix. De plus en plus de jeunes, des centaines de médecins ou encore des dizaines d'officiers en formation en Occident ne sont pas revenus de leur exil, à tel point qu'il y a 2 ans, le chef de l'État avait décoré publiquement une femme du grade de major de police, officiellement parce qu'elle avait été l'une des rares à revenir au Burundi après une formation aux États-Unis.
Esdras Dikoumana, une aide plus que bienvenue pour le Ghana. Lundi, le Fonds monétaire international a approuvé un nouveau versement de $360 millions. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'aide de 3 milliards conclu avec le pays en 2022 pour l'aider à sortir d'une des pires crises économiques de son histoire. Depuis, le FMI note des performances satisfaisantes du gouvernement, des réformes qui portent leurs fruits. À 4 jours seulement des élections prévues au Ghana, le parti au pouvoir en revendique le mérite, Victor Cariou.
Lorsque nous avons conclu cet accord, nous nous sommes fixé l'objectif ambitieux de rétablir la stabilité macroéconomique. Aujourd'hui, nous voyons les bénéfices de la mise en œuvre efficace du programme. Voici comment Mohamed Amin Adam, ministre des Finances du Ghana, a réagi ce mardi à l'annonce de la validation du nouveau versement par le FMI. Un signal positif pour le gouvernement, à seulement 4 jours des élections générales du samedi 7 décembre, l'état global des finances est en effet l'un des enjeux principaux du scrutin. Dans son communiqué, le Fonds monétaire international précise cependant que, je cite, « la mise en œuvre résolue du programme reste essentielle avant et après les élections ». 2 ans de crise économique plus tard, l'inflation reste aujourd'hui au-dessus des 20% et le cedi ghanéen peine toujours à se stabiliser face au dollar. Une situation précaire qui a un coût politique fort pour le parti au pouvoir. Selon le dernier sondage d'Afro Barometer, il serait 80% au Ghana à estimer que le gouvernement sortant a échoué dans sa gestion de l'économie. Victor Cariou, Accra, RFI.
Accra, où il est 8h40, 9h40 ici à Paris. Appel sur l'actualité continue maintenant avec vous, Juan Gomez.
Merci.